Donc bonjour à vous tous. Ça sera très simple à mes yeux en tout cas. À partir d'exemples, j'aurai pas mal d'exemples à vous proposer. Je voudrais vous faire surtout sentir deux choses d'ailleurs que vous savez déjà probablement. Et puis j'en viendrai à des textes bibliques. Et j'en resterai là, et sans doute je reviendrai sur le thème une prochaine fois. Et je commence par un quiz, par des questions auxquelles vous n'êtes pas obligé de répondre oralement. Alors, si vous avez un lit à deux places, pour ceux qui ont un lit à deux places, vous vous couchez de quel côté? Et puis, j'ai envie de vous poser la question, vous dormez dans quel sens? Après avoir émergé de votre sommeil, quels sont les premiers gestes que vous faites? Je vous laisse un peu de temps pour vous les mettre en tête. Vous faites vos courses ordinaires. À quel magasin? Et puis je vous invite à penser à un produit alimentaire que vous consommez régulièrement. Je sais pas, moi, du riz, un jus de fruits. Quelle marque achetez-vous? Est-ce que c'est au singulier ou au pluriel? Pour ceux qui consultent Internet, quel site Internet consultez-vous? Est-ce que ça varie beaucoup d'un jour à l'autre? Et puis quand vous vous asseyez à table pour manger, si vous avez une table et si vous avez de quoi manger, vous vous asseyez à quelle place? Et j'ai juste envie de vous demander une réaction en disant qui est-ce qui a répondu « ça dépend » à toutes les questions. Merci, vous êtes ça m'aide. Quelqu'un aurait répondu « ça dépend », ça m'aurait embêté. J'aurais pu poser la question aussi « où est-ce qu'on s'assoit à l'église ?» Mais comme avec les conditions sanitaires actuelles, là, à part quelques personnes qui ont des places précises, les autres, ça peut être plus variable. Mais je vous entendais, je pense que je parle d'habitude. Pour certains, après s'être étiré le matin, le premier geste sera d'attraper le portable, de vérifier les SMS ou autres, les emails, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que j'ai un nouveau message? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps où j'étais sur off, c'est-à-dire j'étais plus présent? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, dans mon monde? Le monde des sites, des personnes, des relations que j'entretiens par ce biais? La newsletter, la lettre de nouvelles que je reçois, les notifications que j'ai reçues. Et plusieurs prendront l'appareil, et puis l'emmènent un peu partout, aux toilettes aussi, à la table de la cuisine. Et alors, mais je me trompe peut-être, mais la seule limite à ma connaissance, c'est la douche. Mais je ne sais pas s'il y a des portables qui font. Je sais qu'à l'époque où le Rubik's Cube était sorti, c'était il y a bien longtemps, certains l'emmenaient même sous la douche parce qu'ils voulaient absolument résoudre le truc. D'autres se lèvent et puis vont ouvrir les stores. Avec ma femme, nous avons un débat régulier chaque matin. C'est que ma femme le lève jusqu'en haut et moi je le mets jusqu'aux deux tiers. Voilà, c'est mon réflexe, c'est mon habitude. Elle en a une autre, ça nous donne l'occasion de discuter ensemble. D'autres vont ouvrir le frigidaire. Qu'est-ce que je vais manger ce matin? D'autres vont ouvrir le journal. D'autres vont peut-être ouvrir la Bible. D'autres allumer la radio ou d'autres vont allumer la télévision. Mais je veux attirer notre attention sur la dimension d'habitude qu'elle est présente chez nous, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Et elle est présente parce que ce sont des gestes qu'on fait machinalement, on fait même sans les calculer, sans s'en rendre compte, sans même y penser. Quand je monte le store, je réfléchis pas, je vais l'arrêter là, il s'arrête là tout seul. C'est pas du tout calculé. Ça l'a été à une époque, sans doute, mais... Donc des gestes qu'on fait sans s'y arrêter, sans réfléchir. Et ces gestes, ce qui est frappant, c'est que c'est le fruit de choix conscients ou inconscients. Et puis je peux même l'illustrer là maintenant, j'essaie de... Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais j'essaie de contrôler mon débit, plus ou moins consciemment. J'ai vu que tout à l'heure, quand j'ai commencé, c'était peut-être confortable pour vous, je ne sais pas, mais je dis là, tu vas ralentir ton débit parce que mon rythme de parole spontané peut être parfois très, très, très rapide. Donc, fruit de choix conscient ou inconscient. J'aime bien l'exemple du téléphone portable, parce qu'il est récent, il illustre, donc j'y reviens. Il est tellement là qu'on pourrait avoir l'impression qu'il a toujours été là. Et pour certains d'entre nous, il a sans doute toujours été là. Peut-être pas pour la majorité, vu l'âge que je nous vois aux uns et aux autres. Mais ce sera un scoop pour personne si je vous dis que Jésus n'avait pas de téléphone portable. En France, le premier téléphone de poche, le premier téléphone sans fil, date de... Quiz. Oui, 91. Le premier réseau de téléphonie mobile date de 92 et le premier forfait grand public de 96. Donc c'était le siècle dernier. C'était le millénaire dernier. C'était il y a 25 ans. Mais je le dis parce que je me pose la question, combien de nos gestes spontanés avec cet appareil n'existaient juste pas ? Et aujourd'hui, c'est pas simplement que nous les avons adoptés, c'est que pour beaucoup d'entre nous ne savons pas vraiment vivre autrement. Et c'est rigolo parce que il y a 25 ans, je me souviens, j'étais à Paris, enfin, 25-30 ans, dans le métro. C'était rigolo parce que là, on était au milieu d'inconnus, les yeux dans le vague. Et le but du jeu, enfin pour moi en tout cas, j'ai pas posé la question aux autres, mais c'était de pas trop croiser le regard des autres parce qu'on est gêné. Pourquoi ils me regardent là ? On avait plutôt un regard maussade, on faisait la gueule, excusez-moi l'expression. Mais aujourd'hui dans le métro, c'est génial je trouve, parce que on a bien sûr encore le droit de se faire la gueule, mais la plupart des passagers ont les yeux fixés sur leur portable ou sur un bouquin, et les personnes sourient, elles sont semi-actives à répondre à un SMS, à consulter quelque chose. Donc jeu, lecture sur portable, on est en lien avec d'autres, voilà, il y a aussi des personnes qui font la gueule, ça nous arrive aussi, mais beaucoup moins qu'il y a quelques années. Donc petit appareil, petit geste, je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque il y avait la pub Minimir, Miniprix, mais il fait le maximum. À l'origine sans doute nous destinés à nous aider à vivre, mais deuxième élément, il est devenu quelque chose qui forme notre vie. Donc c'est pas l'habitude, on l'a choisi, il y a un moment où ça se conjugue, ça se renverse, je ne sais pas comment il faut dire, mais l'habitude, elle vient former notre vie. Elle organise notre vie, elle prend le pas sur notre vie. Quand par exemple je me dis, en fait je me dis pas, je le fais, hein, quand je me dis qu'il faut que je réponde au SMS que je viens de recevoir avant de manger la prochaine bouchée de purée, avant même de répondre peut-être à celui qui est à table avec moi, j'entends quelque chose qui joue sur ma vie et qui, de manière plus ou moins consciente. Le portable, puisque j'en parle, nous forme. Il organise notre vie, il mobilise la façon dont je vais vivre ce moment. Et donc ce qui est frappant, c'est qu'il y a un moment peut-être où nous l'avons décidé de manière très, très consciente. Et puis il y a un moment où c'est lui qui est venu à donner le rythme, en tout cas pour ces moments-là. Et que le portable tombe en panne, et beaucoup d'entre nous peut-être, nous nous voilà un petit peu comme orphelins, perdus, il y a quelque chose en creux là. Et il y a quelques années, en tout cas quand la télé est tombée en panne, plusieurs couples se sont trouvés en péril, parce qu'ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus quoi se dire. En attendant le dépanneur qui n'allait pas débarquer tout de suite, en attendant d'aller bosser demain, c'est pas 5 minutes qu'il fallait occuper, c'est toute la soirée. Et il allait falloir se parler, peut-être. Et on savait plus faire. Je force pas beaucoup le trait, je crois. Qu'est-ce qui se passe quand les deux sont en retraite, par exemple? Il va me falloir, si je ne suis pas seul à la maison, en tout cas, il va falloir que je parle à mon conjoint, à mon enfant, à mon parent, pire, peut-être que je l'écoute. Et pour plusieurs, c'est une expérience un peu de sidération. À l'époque, il n'y avait pas de bol, il n'y avait pas de portable. Panne de courant, panne de réseau, panne de vie. Alors évidemment, le portable est un exemple commode. parce que c'est facile de le voir, c'est facile de se laisser happer, sans nous poser de questions. D'ailleurs, il est fait pour se rendre indispensable. Mais je prends cet exemple parce que c'est la partie émergée, je crois, d'un iceberg. Parce que l'iceberg, c'est la présence des habitudes dans notre vie, dans notre histoire. L'habitude de conduire, pour ceux qui l'ont prise. Vous ne calculez plus la coordination des pieds et des mains. Quand il faut passer la vitesse et appuyer sur la pédale en même temps, vous ne calculez plus si vous avez réussi votre permis, si vous avez conduit un certain temps. Mais je crois que pour ceux d'entre nous qui sont en train de le passer, je regarde quelqu'un dans la salle, c'est pas gagné. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Rappelez-vous combien ça n'allait pas de soi. Et puis, prenant l'habitude de conduire, ne nous arrive-t-il pas à plusieurs d'entre nous de perdre l'habitude de marcher ? Au point que marcher devient un effort et que même si on habite à 10 minutes à pied de l'église, on va prendre la voiture et que s'il pleut ou si la voiture ne fonctionne pas, on ne se sent pas de venir à l'église. Peut-être. Ou ailleurs. Donc la voiture aussi, elle structure notre vie. C'est parce que je sais conduire que j'organise mes déplacements, mes courses, ma vie professionnelle. C'est parce que je sais conduire ou que je ne sais pas conduire. C'est parce que vous savez conduire pour la plupart d'entre vous que vous êtes là ce matin. Tout simplement, c'est pas possible autrement. Et c'est aussi, donc il y a des endroits où on le voit, il y a beaucoup d'endroits où on ne le voit pas. C'est aussi parce que vous avez plus ou moins pris l'habitude d'être attentif un certain temps que vous supportez à présent, avec plus ou moins d'effort, de m'écouter. Ou de porter le masque, par exemple. Ou bien que vous ne le supportez juste plus. Côté catholique, pour prendre une comparaison, la prédication, le sermon dure moins longtemps. Dure, je ne sais pas trop, peut-être une dizaine de minutes, j'en sais rien, ça va dépendre des lieux, des espaces. Je me souviens d'une fois où j'avais pris la parole, j'ai demandé combien de temps d'habitude. Il m'a dit 3 minutes. Ok, 3 minutes. Ben voilà, j'avais besoin de savoir, donc ça, après je m'aligne. Ou j'y arrive pas, mais c'est 3 minutes. Après 3 minutes, c'était compliqué. Donc si pour m'écouter aussi longtemps que vous le faites maintenant, ça aurait été une épreuve. Dans d'autres églises, la prédication peut durer 40, 45 minutes, 50 minutes, 1 heure, 1h30, et on peut vous dire, si vous commencez à vous ennuyer, comment vous aimez pas le Seigneur là, ou si vous trépignez un peu. Mais si vous n'avez pas pris cette habitude, ça va être fatigant. Et c'est peut-être fatigant, là, ce matin. Et c'est aussi parce que vous avez pris ou pas l'habitude d'écouter de façon générale, que vous écouterez ou pas l'autre tout à l'heure, quand nous échangerons à la fin du culte, ou que vous ne l'écouterez que d'une oreille, ou pas vraiment. La relation à l'autre, l'attention que nous avons à l'autre, elle dépend en partie de notre intention. Bon, là, maintenant, j'écoute. Et les ressources d'écoute seront grandes si nous avons pris l'habitude. Elles seront réduites si nous n'avons pas pris l'habitude. Et je crois que nous le savons parfois, enfin pas toujours, mais nous le sentons parfois. Nous voyons bien parfois que l'autre ne nous écoute pas vraiment. Quand la personne, par exemple, à qui on a demandé comment ça va, ne nous renvoie pas la question, par exemple. Ou bien que si elle est renvoyée, la question, on peut sentir ou avoir l'impression que, évidemment, ça, c'est un peu aléatoire quand même, mais que c'est pour la forme, parce qu'une fois qu'on a répondu à la question, la personne passe très vite à autre chose et se lance sur quelque chose qu'elle a envie de raconter à propos d'elle, et puis voilà. Et que vous n'avez pas vraiment de place dans une conversation, mais peut-être quelqu'un qui est là pour écouter. Et ça se sent pas, ça se calcule pas, mais c'est bien ce qui se passe. Et ça joue beaucoup. Il y a des personnes avec qui on se sent à l'aise parce qu'on sait que ces personnes vont, enfin, ça dépend ce qu'on cherche aussi de la part de l'autre, mais que ces personnes vont être en écoute, en attention à nous, vont prendre nos nouvelles. Et d'autres avec qui on sait que ça se passe juste pas comme ça. C'est pas forcément de l'antipathie, c'est juste que ça se passe différemment. Et ça joue énormément sur les personnes qu'on aime fréquenter, ou non. Et puis tout bonnement, et j'en finirai presque avec les exemples, nous avons pris l'habitude, la plupart d'entre nous, de parler une langue. Et ça ne s'est pas fait tout seul. On le voit avec les enfants qu'on côtoie. Si je vous parle en ce moment, si vous me comprenez au moins un peu, c'est parce que vous et moi, nous avons fait la même démarche. Et le plus souvent, d'ailleurs, nous n'avons pas, même pas choisi de le faire. Soit nous sommes nés dans un pays qui était plus ou moins francophone, ou bien nous avons appris sur le tas, nous avons appris à l'école, soit nous avons dû venir en France et il a bien fallu nous y mettre. Mais sans une langue dont nous avons l'habitude, ce moment même ne pourrait pas avoir lieu. Impossible d'être en relation les uns avec les autres. Enfin, impossible. Compliqué, très compliqué. Impossible, très compliqué de comprendre l'autre. De se dire soi-même. De se comprendre soi-même, tant parfois pour se comprendre, on a besoin de dire à quelqu'un. Et c'est quand l'autre nous renvoie quelque chose qu'on entend quelque chose de nous-mêmes. Impossible de se dire à l'autre, difficile, et impossible de se dire à Dieu. Donc, enfin voilà, je prenais des exemples qui me paraissaient extérieurs, j'essayais de ramener vers le plus intérieur de nous-mêmes. Autant dire que l'habitude que nous avons prise, et parfois difficilement, elle nous constitue, elle nous forge. Et de même, on pourrait évoquer aussi les habitudes, les façons de réagir à une provocation, à des difficultés. Il y a des personnes qui se taisent, qui encaissent, d'autres qui se plaignent, qui endossent la situation de la victime. Il y a d'autres qui font face, qui rentrent dans le chou ou dans le leurre. Notre caractère est-il différent d'une habitude? Du coup, vous pouvez comprendre que je suis, pour ma part, peu sensible quand on voudra dévaluer l'habitude ou la coutume. Les mots sont parfois synonymes. Et en même temps, j'entends bien que parler d'habitude, c'est la routine, quoi. Il y a quelque chose en nous qui a envie de quelque chose de plus ouvert, de plus... Parler d'habitude, c'est ennuyeux, c'est répétitif, c'est lassant. Et en parler en église, alors c'est pire. Mais les habitudes, c'est beaucoup par elles que nous vivons, même quand nous essayons de varier nos habitudes. Nous les tissons, nous les forgeons, et ce sont elles qui nous tissent, ce sont elles qui nous forgent. Et il y a là quelque chose de structurant. Tant notre vie est composée de cela. Notre vie dépend de ça. Notre relation à l'autre, à nous-mêmes, et notre relation à Dieu. Et les voir et les incarner, ces habitudes, et voir quelqu'un avec ses habitudes nous donne à voir que ce sont elles qui disent en fait ce qui compte vraiment pour nous. Si je dis, moi, ce qui compte pour moi, c'est l'écoute de l'autre, et puis qu'en fait, je ne vous écoute jamais, il y a une dissonance. Et j'aurais beau raconter tout ce que je veux, vous savez, vous avez les moyens de savoir en me voyant être, si je vous écoute ou non. Les habitudes nous disent qui nous sommes, quels sont les lieux où nous investissons de l'énergie, du temps, où nous investissons du temps, de l'énergie pour de vrai, je veux dire par à la différence de nos discours. Et au bout du compte, si nous ne nous trompons pas nous-mêmes, si nous ne nous tenons pas un discours à nous-mêmes, les examiner, ben c'est en bout de semaine peut-être, c'est voir ce que nous aurons vraiment fait cette semaine, ce que nous aurons vraiment été en fin de journée, Ce ne sont pas nos belles intentions, nos beaux discours sur l'amour concret des autres, qui nous dira ça, c'est ce que nous aurons fait. Internet est sympathique parce que ça peut être le nombre d'heures dans notre historique de navigation. Mais bon, tout n'est pas comptabilisable comme ça. C'est en nous voyant avec nos habitudes que l'autre, que nous-mêmes, verra ce qui compte vraiment pour nous. J'aime Dieu, j'aime le Seigneur, ok. Nos parents, nos amis, nos enfants pourront voir, mais quelle place ça a dans notre vie, en vrai. J'en viens enfin à la Bible. Et la première réflexion que je me suis faite, c'est que curieusement, enfin ça m'a paru curieux, la Bible ne s'arrête pas, ou je ne la vois pas beaucoup s'arrêter de front à cette question des habitudes, de la coutume. Et j'ai trouvé étonnant, peut-être, mais il n'y a pas, je crois, dans l'Écriture de méthode. D'enseignement sur la façon d'acquérir des habitudes, de les choisir, etc., de les changer, de lutter contre celles que nous aimerions perdre, je n'en vois pas en tout cas. Alors en même temps, il y a bien des invitations, des choses qui sont de l'ordre de l'habitude, aimez-vous les uns les autres par exemple, donc il y a bien une avis. Et en plus, le temps en grec pourrait être compris comme quelque chose de régularité, c'est un présent, mais un présent de durée, un présent duratif. Donc il s'agit d'être comme ça, le plus possible, tout le temps. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre de l'invitation à quelque chose d'habituel. Mais pas d'enseignement sur la façon de changer d'habitude, sur les difficultés à changer d'habitude, par exemple. Les habitudes donc ne sont pas absentes pour autant, déjà dans les exhortations, mais je voudrais m'en tenir ce matin notamment à la vie de Jésus lui-même. Le mot qui est parfois traduit par habitude, ça dépend des traductions, par coutume, apparaît en fait 12 fois dans le Nouveau Testament. Et il est question par exemple de la coutume des prêtres, de la coutume des juifs. Et dans la vie de Jésus, j'ai été intéressé de voir que le mot apparaît au moins 3 fois, au début, au milieu peut-être, et à la fin, en tout cas dans du récit que Luc en fait. Et je voudrais lire ces versets. Il est question d'habitude au moment où Jésus a 12 ans, et où il monte à Jérusalem, et là il y monte parce qu'il est associé à l'habitude, à la coutume de ses parents. C'est au chapitre 2 de l'Évangile, et je lis, verset 42, « Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume, l'habitude de la fête. » Première mention d'habitude, Jésus a l'habitude de marquer le temps de la Pâque, de marquer les temps de Dieu pour le peuple. Quelques chapitres plus loin, mais on est là maintenant au cours de la vie adulte de Jésus, Luc, chapitre 4, verset 16, nous dit que Jésus avait l'habitude de se rendre au rassemblement de la synagogue. Je lis le texte. « Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. » Et puis on le voit à un dernier moment, et c'est à la fin du récit de la vie terrestre de Jésus, puisque c'est le moment où il va être arrêté. Et cette arrestation, c'est frappant, ça peut être inquiétant, si je puis dire, j'y viens tout à l'heure, n'est pas sans lien à ses habitudes. C'est au chapitre 22 de l'Évangile de Luc, au verset 39. Il sortit et se dirigea, comme d'habitude, vers le mont des Oliviers. ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Et on voit du coup que Judas, qui le trahit, et c'est là que ça peut être inquiétant, un peu comme les cambrioleurs modernes, apparemment qui observent nos habitudes, m'a-t-on dit, je n'ai pas l'expérience des cambriolages, ni comme cambrioleur, ni comme étant cambriolé, mais un peu comme les cambrioleurs modernes qui observent nos habitudes et qui savent qu'à ce moment-là, la personne s'en va pour toute la journée, et donc peuvent savoir quand la maison est la plus vulnérable, eh bien Judas connaît la façon de faire de Jésus. Il sait la façon dont Jésus peut être approché quand il est le plus vulnérable, et il l'exploite. Et dans le même texte, un peu plus loin, nous voyons Jésus qui prie, et probablement à nouveau une autre habitude. Donc l'Écriture nous dit peu de choses de l'habitude dans la vie, en tout cas de Jésus, mais je trouve frappant que dans les moments qu'elle le fasse quand même, et qu'à chacun des moments quasiment où elle le fait, au moins dans deux de ces trois passages, et peut-être dans les trois, nous voyons dans ce que Jésus est, le souci qu'il a de Dieu. Ce qu'il a mis en place dans son histoire pour intégrer et pour pouvoir témoigner en étant cru que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui vient de la bouche de Dieu. La fête de la Pâque, en effet, sert année après année à faire mémoire du Dieu qui a délivré le peuple d'Israël. Le culte hebdomadaire de la synagogue joue un rôle d'expression, d'attachement et de culte rendu à Dieu, de souci d'écouter sa parole, de s'en nourrir. Quand Jésus est enfant, c'est peut-être moins net, parce qu'il n'y a peut-être pas trop le choix, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est aussi le même mouvement auquel il adhère sans doute. Donc on sait peu des habitudes de Jésus, mais ce que nous lisons nous donne à voir un petit peu qui est Jésus, ce qui compte pour lui, et ce qui compte plus que théoriquement, parce que c'est ce qu'il fait pratiquement, et qu'il fait et qu'il refait, ce qui modèle sa vie et ce qui le fait être qui il est. Et on pourrait rajouter sans doute à cela aussi toute cette familiarité évidente que Jésus a tout au long de son cheminement dans les évangiles avec l'Écriture, qui lui vient spontanément, qui l'aide à se comprendre, et qui vient sous sa bouche quand il dialogue avec les autres. Alors, bon nombre de prédicateurs ont sans doute l'habitude de tenser leurs auditoires en les mettant en demeure de la façon que je vais imiter maladroitement. Et vous, vos habitudes, c'est quoi? Quelle habitude vous avez de Dieu? Quelle habitude vous avez de sa parole? Et vraiment, est-ce que vous prenez Dieu au sérieux? C'est quoi la vraie composition de votre attachement à Dieu, de votre histoire, en dehors de ce moment de culte? Alors cette façon de dire, vous le savez je pense, ne correspond pas tout à fait à mon habitude. Ceci dit, j'espère que vous ne vous y tromperez pas pour autant. Si cette façon de dire ne correspond pas à mon habitude, vous l'aurez, je l'espère, compris quand même. C'est pourtant exactement là où je veux nous mener les uns avec les autres. Et cela qu'avec l'exemple de Jésus, je ne sais pas quoi vous proposer de mieux. C'est cela que je veux vous laisser, que je veux nous laisser. Je vous invite à un moment de silence. Mieux que nous, Seigneur, tu connais ce que nous sommes. La distance ou la proximité entre ce que nous disons et ce que nous sommes au jour le jour. Nos aspirations à toi et ce qui nous tire dans un autre sens. Et nous voudrions parfois avoir plus d'homogénéité dans notre histoire. Tu vois les luttes que nous avons. Je prie que chacun d'entre nous, tu nous habites, tu nous modèles, que chacun d'entre nous trouvions en toi ressources pour nous attacher à toi et pour avoir une vie qui ressemble de plus en plus à celle que toi, Jésus, tu as vécu, marqué, incarné. Nous nous confions à toi, chacun ici dans cette salle, chacun des frères et sœurs qui sont sur Zoom. Tu vois aussi les autres communautés chrétiennes de cette région, de ce pays, mais restons-en à ce qui est proche. Seigneur, que ta parole nous forme, nous habite, nous forge. Nous te prions. Amen.